Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Bon, alors tout en haut, le paysage est encore magnifique. On peut y apercevoir les deux volcans qui sont dans l'environnement de Puebla, deux volcans et les neiges éternelles sur celui qui est éteint. Mais la fumée qui sort de l'autre volcan est plus pointu, ils ne sont pas pareils. Ce ne sont pas des jumeaux, ce sont deux volcans, mais ce ne sont pas des jumeaux. Alors il y en a un qui est un peu plus arrondi, l'autre très très pointu. Alors, je me dis, oui, il doit se dégager de là toute une chaleur. C'est toujours impressionnant de voir cette nature. En redescendant, on entend toujours les coups de canon, là. La procession continue dans les ruelles. Alors, les gens sont à faire leur dévotion. Et là, nous allons nous arrêter un petit moment pour se reposer. Alors, c'est un café qui est sur le coin de la rue. Un petit café très simple. Et ce sont des jeunes, des très jeunes, qui sont là pour nous servir. Alors, sont très souriants, sont très accueillants, sont contents. Mais il y a personne. C'est nous. On est deux. Alors, on entre. Et il y a des photographies sur les murs. Et on perçoit que ce sont les descendants d'une famille qui possède ce café depuis des décennies. Parce que c'est exprimé. Alors, depuis, par exemple, tant d'années, on voit les ancêtres, on voit la première maison, le premier petit café. Alors, et on voit l'évolution, on nous montre l'évolution. Et là, on voit le visage, probablement de la troisième ou quatrième génération. Alors, de belles personnes, des beaux visages qui nous accueillent pour nous donner quelque chose. Moi, c'est probablement une tisane, un thé, et mon collègue aussi. On voit les photos des ancêtres, celle de l'immeuble, comme je vous le disais, et je remarque un crucifix très particulier, artisanal. Et qu'est-ce qui forme le corps du Christ? Ce sont des ustensiles. Imaginez une fourchette, des cuillères, un couteau. Imaginez là qu'ils ont fabriqué un crucifix, le corps du Christ, avec ces éléments-là, ou des parties d'ustensiles. C'est quand même impressionnant. Ça leur parle. C'est leur vie, c'est leur métier de restaurer, d'être des jeunes qui travaillent dans ce petit café, de servir des repas. Alors ils ont traduit leur foi en Dieu, en Jésus, dans le Christ crucifié, en fabriquant un crucifix avec des ustensiles. C'était pas quétaine, je vous le dis. C'était de l'art. C'était beau. C'était bien. C'est respectueux. Et dans leur tradition, bien, le soleil et la lune, je vous en ai peut-être déjà parlé, hein. Alors, tradition des Aztèques. Alors, le soleil et la lune sont de chaque côté de ce crucifix. Il fait très beau, c'est très très beau, c'est un beau samedi. Alors, nous nous rendons à l'église des Franciscains, qui est assez près. Une église très chargée de statues, énormément de statues. Et tout à côté de la chapelle, il y a des Indiens qui se trouvent là. C'est la chapelle des Indiens, c'est comme ça qu'on la dénomme. Et là, nous voyons des jeunes étudiants qui sont en fin de parcours et qui sont en train de se faire photographier en belle toge pour signifier la fin de leurs études. Évidemment, ils sont avec leurs parents, leur famille, les amis. C'est très beau. C'est le bonheur. Ils ont travaillé, ils ont étudié. C'est la finale. C'est la photo. La photo de l'étudiant ou de l'étudiante qui sera certainement mise dans la maison là, comme étant quelque chose d'important. Les parents ont travaillé. Hein. Les parents ont travaillé dur, ont travaillé fort pour amener leurs enfants à ces hautes études. Alors, la photo va revenir dans la maison. Et quand les parents vont voir cette photo, ils vont voir aussi leur labeur et leur travail et leur sueur et leur sacrifice. Et quand l'enfant va revenir chez ses parents, ou s'il reste encore chez ses parents, et qu'il verra cette photo, il verra l'importance des parents par rapport à lui, par rapport à elle. Ils ont mis cet enfant-là au monde, ils s'en sont occupés, ils lui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont travaillé dur et fort pour qu'ils aient une éducation, et ça se voit, ça se remarque, on met ça sur un mur. Nous allons revenir à Puebla, nous étions à Cholula, nous revenons à Puebla, et nous rentrons par autobus à Mexico. Encore un petit parcours, et comme nous arrivons à l'aéroport, c'est là que nous allons nous arrêter. Il est 15h, on prend le repas du midi à l'aéroport, dans un resto, là-bas. Et après, on s'en vient à la Fraternité des Prêtres. Ce sera le repos, un repos bien mérité. Ensuite, la célébration de la messe, en fin d'après-midi. Et là, c'est l'évangile où Jésus a envoyé les disciples qui reviennent. Ils sont fatigués. Et le Seigneur leur dit, venez un peu à l'écart, vous reposer. Il y a tellement de monde que Jésus va accueillir toutes ces personnes et va faire en sorte qu'on va reporter sûrement le fait d'aller se reposer. Et là, il prend le temps de rester avec le monde. Et l'Évangile nous dit qu'il les instruisit longuement. Alors, nous sommes peu pour annoncer l'Évangile parfois. Et Jésus est saisi de pitié devant cette foule. Ils sont fatigués. Mais il est saisi de pitié et ça prend le dessus. Son cœur va toujours prendre le dessus sur toute forme de repos ou sur toute forme de pensée personnelle. Il est là pour eux. Il a donné sa vie pour tous. Alors les disciples vont vivre cette expérience. Ils sont brûlés, comme on dirait. Ils sont crevés, ils sont fatigués. Ils ont fait les routes. Jésus a bien vu leur fatigue puisqu'il leur propose « Venez à l'écart, vous reposez un peu. » Mais ce n'est pas tout de suite. Ce sera plus tard. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible ». Parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Le curé le regarda droit dans les yeux et lui dit : c'est dans les yeux que l'on voit la source des gestes. Entre les deux hommes, ce fut un long silence. Après avoir longuement regardé son vis-à-vis, le curé tourna son regard vers Monsieur le maire, qui nerveusement faisait tourner ses moustaches. Puis, revenant poser son regard sur le gifleur, il dit « Je t'avais pardonné sans te revoir. Maintenant tu le sais. » Et tandis qu'il tendait sa main à son vis-à-vis ainsi qu'aux autres qu'il avait criblés de jurons, toute l'assemblée se détendit et se mit à applaudir. Petit Jean, témoin de cette scène de pardon,
pensa en lui-même que personne n'allait organiser une délégation pour lui offrir des excuses, ni à la dame de la montagne, alors que c'était eux qui avaient subi la première violence. Il n'applaudit pas et quitta l'église le premier. Sur le chemin du retour, Petit-Jean maugréait. Tous ces contrastes du monde l'irritaient. Les grands et les petits. L'absurde situation de la dame de la montagne ficelée dans ses nuits. Et les bêtes idiotes qui n'auraient pas mangé un brin d'herbe sans qu'il les conduise au pâturage. Demain, ce serait la tante des bêtes. Aujourd'hui, elle paraissait encore comme d'insignifiantes boules de laine. Et puis, il n'avait pas davantage le cœur à entrer dans ce monde de lamentation que lui apportait la dame de la montagne. Enfin, il rentra quand même dans la maison. Décidé, il lui dit énergiquement « Aujourd'hui, je te fais voir le soleil !» C'en était assez de cette caverne. Il fallait dépoussiérer les ombres.
« Je ne veux pas que l'on me voie !»
dit-elle apeurée.
« Les moutons te verront et tu verras les... »
Dans son ardeur à vouloir orienter les choses, Petit-Jean venait d'oublier la personne. Non, elle ne verrait pas les moutons. Surpris de ce qu'il venait de dire, il vit clairement jusqu'à quel point il n'acceptait pas cette nouvelle réalité. Il n'arrivait pas à dépasser cet obstacle. Il la prit donc par les mains et lentement, très lentement, il eut l'impression de lui faire faire les premiers pas de sa vie. Comme une esclave, elle le suivait, tout attachée à son maître. La voix tremblante, elle disait
Tu es mes yeux, Jean. »
Lui se sentit tout à coup coincé, comme prisonnier. Sa lenteur l'agressait, le violentait dans ce qu'il y avait de si rapide en lui. Et comme pour en finir, il se mit à accélérer. Tout de suite, la dame de la montagne se rendit compte de sa lutte et de son regard blanc lui dit sèchement
« Jean, laisse-moi !»
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron. Thank you.